La contemplation du corps. Les gens sont très réfractaires à la contemplation du corps en tant qu'objet de méditation. Certains d'entre eux se plaignent qu'ils ont déjà une image négative du corps, et donc pourquoi faut-il se focaliser sur le côté négatif du corps? D'autres disent que la contemplation du corps est une manière d'encourager l'aversion envers le corps, ce qui est un état d'esprit malsain. D'autres disent qu'ils ne sont pas du tout attachés à leur corps, et donc pourquoi devraient-ils se focaliser sur le corps? Ou bien ils se réfèrent à cette histoire où le Bouddha avait recommandé la contemplation du corps à des moines, et partit ensuite dans la forêt pour quelques mois. Les moines devinrent si dégoûtés de leur corps qu'ils commencèrent à se suicider, tandis que d'autres recrutaient des assassins pour qu'ils les tuent. Lorsque le Bouddha sortit de la forêt, il découvrit que la communauté des moines était beaucoup plus petite qu'avant. Et donc il appela les moines qui restaient et leur dit de pratiquer à la place la méditation sur la respiration. Certaines personnes citent ceci comme une preuve que la contemplation du corps est une pratique malsaine. Cependant, le fait que les gens sont tellement réfractaires à cette méditation montre que c'est important. C'est quelque chose qui nous menace, parce que cela va au cœur même de notre attachement. Il n'y a rien au monde à quoi nous soyons plus attachés qu'à notre propre corps. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont tellement d'excuses pour ne pas se focaliser ici même. Si vous ne vous focalisez pas dessus, que va-t-il se passer? Vous allez maintenir votre attachement profond au corps. Celui-ci ne va pas disparaître de lui-même. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent court-circuiter le processus d'attachement en allant directement à leur sens du soi, pensant qu'en tranchant le sens du soi, elles ne seront pas obligées de travailler sur la contemplation du corps parce que le travail qu'elles font va plus profond, directement à la racine. Mais l'attachement est comme une liane. Vous ne pouvez pas trouver la racine tant que vous n'avez pas saisi la branche la plus proche et que vous la remontiez. Vous ne pouvez pas vraiment aller à la racine de votre attachement au soi jusqu'à ce que vous ayez examiné où se trouvent vos attachements quotidiens les plus flagrants, vos attachements de moment en moment, ici même, dans le corps. Vous ne pouvez pas supporter la moindre petite chose qui arrive à votre corps. Une petite faim, une petite soif, trop de chaleur, trop de froid, et vous prenez la fuite. Un petit problème de santé, et vous vous précipitez pour chercher des médicaments. Si ça, ce n'est pas de l'attachement, qu'est-ce que c'est? Donc, il est important que nous examinions les choses ici même. Sinon, nous restons attachés à la souffrance que le corps va nous apporter. Comme nous le savons tous, il vieillit, tombe malade, et ensuite il meurt. Si vous ne pensez pas que cela va être de la souffrance, alors allez passer quelque temps avec des gens très âgés, des gens très malades, des gens qui sont en train de mourir. Voyez combien ils souffrent. Il y a 2 semaines, quand j'étais de retour chez mon père, j'ai participé au rituel quotidien consistant à le retourner afin que ma belle-mère puisse lui enlever sa couche. Pendant qu'elle faisait cela, j'ai pu voir à quoi ressemble un vieux corps avec des escarres, comment un vieux corps fonctionne et ne fonctionne pas, combien de souffrances il provoque lorsqu'il est impotent, non seulement pour la personne dans le vieux corps, mais aussi pour les gens qui prennent soin de lui. J'ai aussi vu à quoi ressemble d'être vieux et de ne pas avoir entraîné l'esprit. Dans ces moments-là, l'esprit est totalement incontrôlable, parce que lorsque le corps s'affaiblit, votre énergie diminue. Les pensées qui font irruption dans l'esprit peuvent en prendre totalement le contrôle, si vous n'avez pas développé la capacité à les contrer. Et puis, il y a toutes les indignités de la vieillesse. C'est comme si le corps humain était conçu pour saper tout sens de fierté que nous puissions ressentir. D'autres personnes doivent vous essuyer, d'autres personnes doivent vous retourner. Quel que soit le sentiment d'intimité que vous ayez pu avoir au sujet de votre corps, il passe par la fenêtre. Vous ne pouvez pas contrôler votre fonction d'uriner, vous ne pouvez pas contrôler votre fonction de déféquer, tout devient incontrôlable. Et c'est une bonne chose de contempler ceci, de ne pas développer un sens d'aversion, mais d'examiner le caractère universel de cette condition du corps et de développer un sens de samvega, de voir la quantité d'efforts consacrés à maintenir le corps et ensuite ce à quoi aboutissent tous ces efforts. Si c'est là que vous recherchez le bonheur, vous cherchez au mauvais endroit. C'est là tout l'objet de cette contemplation. Si vous n'apprenez pas comment abandonner votre attachement maintenant, pendant que vous êtes encore fort et en bonne santé, cela va devenir de plus en plus difficile lorsque le corps s'affaiblira, lorsque le corps vieillira. Donc, nous devons développer un sens de passada, un sens de confiance dans la contemplation du corps. Il vous sera impossible de surmonter votre attachement au corps si vous ne l'examinez pas très très attentivement. La raison pour laquelle nous y sommes attachés, c'est parce que nous ne regardons pas attentivement. C'est là tout l'objet de la contemplation des 32 parties du corps. Contemplez le corps selon les termes des éléments, car il n'est que cela. Qu'avez-vous là? Seulement des éléments physiques. Le vent ou l'énergie, le feu, la chaleur, l'eau, la fraîcheur, et la terre, la fermeté. Vous appartiennent-ils? Non, ils font tous partie du monde. Comme le dicton le dit, les cendres retournent aux cendres, la poussière à la poussière. Aussi longtemps que nous sommes vivants, nous absorbons les éléments lorsque nous mangeons, et nous expulsons les éléments lorsque nous déféquons. Et ensuite, lorsque nous devons abandonner tout le truc, tout cela retourne aux éléments lorsque nous mourons. Donc, où allez-vous trouver le bonheur véritable là-dedans? Après tous les efforts que vous avez consacrés au corps, le corps vous est-il fidèle? Parfois il fait ce que vous voulez, mais souvent il ne le fait pas. Lorsqu'il commence à vieillir, à tomber malade et à mourir, il ne vous demande pas votre permission. Vous pourriez penser qu'après tous les efforts que vous lui avez consacrés, il vous montrerait un peu de gratitude, mais il ne le peut pas. Ce n'est pas dans sa nature. C'est nous qui avons animé cette chose. Une des images dans le canon est celle du corps en tant que marionnette. Nous tirons les ficelles pendant un moment, et ensuite elles cassent. Les morceaux se brisent. C'est une bonne chose de développer un sens de dépassion et de désenchantement vis-à-vis du corps, de développer un sens de samvega, afin que lorsqu'il se brise, nous ne nous brisions pas aussi. Nous récitons les 32 parties du corps si souvent que le chant est devenu quelque chose de presque automatique. Vous pouvez le faire sans même penser à ce que vous dites. Donc arrêtez et focalisez-vous sur chacune des 32 parties, une par une. Arrêtez-vous sur chacune et visualisez-la à mesure que vous passez la liste en revue. Commencez avec les cheveux, les poils, les ongles, les dents, la peau, la chair. Lorsque vous visualisez chaque partie, essayez aussi d'avoir un sens de l'endroit où cette partie se trouve exactement dans votre corps. Lorsque vous arrivez à la peau, vous vous rendez compte que vous avez là le corps tout entier, entouré ici même. Il y a la peau tout autour de vous, de tous côtés. La chair est partout, avec les os au milieu. Passez en revue les différentes parties jusqu'à ce que vous en rencontriez une qui vous frappe, qui fasse tilt. Rappelez-vous, oh oui, il y a également une chose comme cela dans ce corps. Et cette incongruité vous frappe vraiment. Vous avez un foie, une vésicule biliaire, des grands intestins, 24 heures sur 24. Vous trimballez cette chose avec vous tout le temps. Cette chose étant une partie qui vous fait ressentir combien ce corps est étrange, dégoûtant, malpropre ou bizarre, quelle que soit la partie qui vous frappe, de quelque manière que ce soit, pourvu que cela soit utile pour la contemplation. Vous avez tellement pris soin de ceci, vous vous en êtes tellement occupé, et c'est tout ce que les efforts que vous y avez consacrés ont donné. Nous ne sommes pas en train de dénigrer le corps. Nous sommes seulement en train de le regarder pour ce qu'il est. En fin de compte, nous voulons apprendre comment l'utiliser simplement comme un outil, sans nous y attacher. Mais pour contrebalancer l'attachement, nous devons aller très loin dans la direction opposée pour contrebalancer tout le battage, tous les slogans publicitaires élaborés que vous avez utilisés pour vous vendre à vous-même le corps. Combien il est important, combien il est essentiel, toutes les bonnes choses que l'on obtient en s'en occupant très soigneusement, en faisant tout ce yoga, en lui fournissant de l'exercice, en mangeant toutes ses nourritures adéquates. Vous pouvez faire ces choses-là, et cependant il va vieillir, tomber malade et mourir. Une des techniques de méditation qu'Ajahn Phong aimait enseigner, lorsque les gens développaient un sens de luminosité dans le corps, était de leur demander de se visualiser eux-mêmes à l'intérieur de cette lumière. Parfois, ils n'avaient même pas besoin de le vouloir. L'image apparaissait toute seule, là, dans la lumière. Ils pouvaient se voir assis, juste en face d'eux-mêmes. Alors il leur disait « Bon, pensez à quoi le corps va ressembler dans 5 ans, ensuite dans 10, 15, 20 ans, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous mouriez. À quoi va-t-il ressembler lorsque vous mourrez? Ensuite, si vous le conservez, le 2e jour après que vous êtes mort, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, à quoi va-t-il ressembler alors? Après 7 jours, incinérez-le. Observez les flammes de la crémation. Et alors, que reste-t-il? Seulement quelques cendres et quelques os. Et ensuite, avec le temps, les os eux-mêmes finiront par se transformer en cendres. Il ne reste rien qu'un tas de poudre. Ensuite, il est dispersé par le vent. Après cela, il leur demandait de se repasser le film à l'envers, de réassembler la chose tout entière, jusqu'à ce qu'ils reviennent au moment présent pour se reconnecter au fait que ce que vous avez ici même va inévitablement dans la direction que vous venez de voir. Le bénéfice de tout ceci, c'est que lorsqu'il y a la moindre petite illusion à propos du corps, cette contemplation aide à y mettre un terme immédiat. Ensuite, il y a le désir pour le corps idéal, la pensée qu'il se peut que les os vieillissent, mais je vais faire du yoga, je vais manger correctement, et je ne vais pas vieillir aussi rapidement qu'eux. Vous vous rendez compte combien cela est illusoire et futile. Il ne s'agit pas de vous encourager à ne pas prendre soin du corps, mais simplement à faire attention à toute illusion qui pourrait se développer autour de lui, afin que lorsque la vieillesse, la maladie et la mort arriveront, vous soyez plus préparé. Une autre raison pour contempler le corps, c'est de vous demander: la vieillesse, la maladie et la mort approchent, avez-vous atteint l'état d'esprit qui sera libre de la souffrance lorsqu'elles arriveront? Si ce n'est pas le cas, de combien de temps disposez-vous? Vous ne savez pas. Donc, mettez-vous au travail immédiatement. Lorsque vous ressentez l'envie de couper court à votre méditation, souvenez-vous de ceci. Combien de temps aurez-vous encore pour méditer? Êtes-vous arrivé là où vous voulez aller? Après tout, c'est la fin de l'histoire pour nous tous. La vieillesse, la maladie, la mort, c'est dans cette direction que nous allons tous. Vous devez être préparé. Autrement, lorsque vous serez vieux, vous resterez allongé dans votre lit à halluciner, en train de voir des chiens bizarres dans un coin de la pièce et des gens en train de se suicider dans le jardin. Parce que le fait d'être vieux, le fait de votre mort qui approche, est tout simplement quelque chose qui vous dépasse, quelque chose de trop énorme pour que l'esprit arrive à le gérer. L'esprit commence à refouler les choses. Lorsqu'il refoule les choses de cette manière, il se dirige vers l'illusion. Il essaie de fuir de toutes ses forces les choses désagréables, mais vous ne pouvez pas les fuir. Elles se trouvent ici même. Vous vous êtes piégé vous-même. La seule manière de sortir de ce piège, c'est de creuser à l'intérieur de l'esprit et de déraciner vos attachements. C'est là que réside votre espoir. Lorsque le Bouddha pointe du doigt les aspects négatifs des choses, ce n'est jamais simplement pour s'arrêter à l'aspect négatif. C'est pour vous montrer le chemin vers le sans-mort. C'est pour vous rappeler, comme un avertissement, les choses sont ainsi. Donc, qu'allez-vous faire pour rester heureux face à cela? Seul le sang mort peut vous fournir un refuge sûr dans un tel moment. Nous aimons penser que la vie se terminera gentiment, que tous les détails se régleront, que tout va s'arranger, comme à la fin d'un film ou d'un roman. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Tout se défait, tombe en morceaux, tout simplement. Les choses ne se rejoignent pas et ne se résolvent pas gentiment. À la fin de la vie, il y a une énorme dissonance lorsque les choses partent dans tous les sens. C'est ainsi que finit le corps. Dès lors, la question est, l'esprit suivra-t-il également le même chemin? Nous avons le choix. C'est notre chance, la pratique. Et donc, nous contemplons l'aspect non attirant du corps pour développer un sens de Samvega, pour nous encourager à pratiquer et à creuser plus profondément. Comme le Bouddha l'a dit, Sati, immergé dans le corps, conduit en dernier ressort au sang mort, si vous le pratiquez correctement. Si vous le pratiquez incorrectement et que vous développez un sens d'aversion, comme les moines dans l'histoire, alors, comme le Bouddha le leur avait conseillé, retournez à la respiration. Cela aidera à dissiper l'aversion, de la même manière que les premières précipitations de la saison des pluies dissipent toute la poussière qui a rempli l'air pendant la saison chaude. Mais cela ne signifie pas que vous arrêtez de pratiquer la contemplation du corps. Cela signifie simplement que vous devez apprendre à le faire habilement, afin que le sens de Samvega soit toujours là, inspirant un sens de Passada, de quelque manière que ce soit, pour que cela vous fournisse un affranchissement au moins partiel, pour que cela vous fournisse une voie de sortie, afin que, comme le dit le Sutta, vous soyez heureux même lorsque vous serez malade, heureux même lorsque vous vieillirez, heureux même lorsque vous mourrez. Et parce que notre attachement au corps est tellement fort, nous avons besoin d'un remède puissant pour le contrebalancer. La contemplation du corps n'est pas quelque chose que vous pratiquez une fois de temps en temps. C'est quelque chose que vous devez pratiquer de façon répétée. Vous devez revenir continuellement à ce thème, parce que c'est la seule chose qui vous permettra de rester sain d'esprit, la seule chose qui vous fournira le véritable affranchissement. Si vous découvrez que vous opposez une résistance à cette pratique, examinez cette résistance pour voir exactement ce qu'elle est. D'ordinaire, c'est une manière de camoufler votre attachement. Le corps n'est pas le problème. C'est l'attachement qui est le problème. Mais pour gérer l'attachement, vous devez vous focaliser sur l'objet où l'attachement est très fort. Lorsque vous l'examinez vraiment, vous voyez que le corps n'est vraiment pas grand-chose, qu'il ne vaut pas grand-chose. Et cependant, votre attachement élabore tant d'histoires, tant de désirs autour de lui. Donc, c'est un sujet de méditation que vous devez conserver à portée de main en permanence, parce que ces attachements apparaissent de toutes sortes de façons à tout moment. Vous voulez être prêt pour eux, avoir le dessus sur eux. Tandis que le corps continue à jouer son rôle, il s'use ici, il s'use là, cette maladie-ci apparaît, cette maladie-là apparaît, vous serez préparé. En Thaïlande, il y a une tradition qui consiste à imprimer des livres lors des funérailles. Et au début de chaque livre, il y a habituellement une petite biographie de la personne à qui le mérite est dédié. En Thaïlande, nombre des meilleurs livres sur le Dhamma sont ceux qui sont imprimés pour ces funérailles. Et donc, lorsque vous lisez ces livres sur le Dhamma, vous ne pouvez vous empêcher de regarder certaines des biographies. Elles suivent toutes le même schéma. La personne se portait bien, menait une vie heureuse, femme, mari, enfant, etc. Puis, au bout d'un certain temps, il ou elle a commencé à développer un problème de santé spécifique, peut-être un petit problème rénal, un problème de foie, peut-être un problème cardiaque. Au début, cela ne semblait pas trop sérieux. Les médicaments pouvaient traiter le problème. Mais au bout d'un certain temps, c'est devenu de plus en plus chronique, de plus en plus gênant, jusqu'au stade où finalement les docteurs n'ont plus rien pu faire. Ils ont dû tout simplement baisser les bras. Et bien qu'ils aient fait de leur mieux, la personne est morte. Et c'est ironique. L'esprit humain a tendance à penser, bon, c'est eux, D'une certaine manière, je suis différent. Mais vous n'êtes pas différent. Regardez-vous. Regardez les gens autour de vous. Quelle maladie va terrasser la personne à côté de vous? Quelle maladie va terrasser la personne là-bas? Quelle maladie porte-t-il déjà en eux, qui en fin de compte causera leur mort? Quelle maladie portez-vous en vous? Le potentiel est déjà là, à l'œuvre. Une des contemplations que je faisais fréquemment à Bangkok, lorsque je circulais en bus, était de me rappeler que toutes les personnes dans ce bus ont des funérailles qui les attendent. Il va y avoir des funérailles pour cette personne-ci, des funérailles pour cette personne-là, des funérailles pour cette personne là-bas. Cela va les frapper toutes, et moi aussi. Et c'est amusant, vous pourriez penser que cette manière de penser est pessimiste ou triste, mais ce n'est pas le cas. C'est libérateur. C'est un grand égalisateur. Vous n'êtes plus prisonnier des détails qui consistent à aimer cette personne-ci ou à ne pas aimer cette personne-là. À vous inquiéter à propos de ceci ou de ce problème-là dans votre vie. Vous savez que tout cela va finir par la mort. Et cette pensée vous libère pour vous focaliser sur les choses qui sont vraiment importantes, comme l'ensemble de la question de l'attachement. Essayez de voir cette pratique comme quelque chose de libérateur, parce qu'elle l'est. Si vous appréciez ce fait, vous découvrirez qu'elle vous permettra d'aller de plus en plus loin. Si vous avez l'attitude adéquate envers la contemplation du corps, cela peut vous mener loin. Cela peut fournir beaucoup de liberté, même au milieu de la vieillesse, de la maladie et de la mort, au milieu de toutes les indignités, les douleurs et les problèmes de la vieillesse, de la maladie et de la mort, car cela vous aide à vous orienter dans la bonne direction, vers la partie de l'esprit qui est libre. La dernière fois que j'ai vu Ajahn Swat, un peu avant sa mort, il a mentionné le fait que son cerveau commençait à mal fonctionner, qu'il lui fournissait toutes sortes de perceptions bizarres. Mais il a ajouté « Cette chose que j'ai obtenue à travers la méditation, cependant elle n'a pas changé, elle est toujours là. » Et c'est la raison pour laquelle la souffrance du corps ne pesait pas sur son esprit, la raison pour laquelle les perceptions bizarres produites par le cerveau ne le trompaient pas. Il montrait qu'il est possible de ne pas souffrir au cours du processus de la maladie et de la mort. Et lorsqu'une telle chose est possible, vous voulez vraiment orienter tous vos efforts dans cette direction. Comme le dit l'un des chants, ne soyez pas le genre de personne qui regrette plus tard de ne pas avoir profité de l'occasion de pratiquer lorsque vous étiez encore fort et en bonne santé.